Donc ce matin, je voudrais partager sur trois points. Et quand on voit tout ce qui s'est passé dans le culte, comme par hasard, ça se rejoint quand même pas mal. D'abord sur la présence permanente du Seigneur dans notre quotidien. Ensuite, notre difficulté à réaliser dans ce quotidien qu'il est présent. Et enfin, vous proposer des idées, une expérience pour y remédier. Voilà. Donc, on y va. Alors, d'abord, Dieu habite sa création. Cela, a priori, devrait appeler aucun commentaire. C'est devrait être une évidence. Toute la parole de Dieu nous le dit, nous le redit sans cesse. Mais parfois, malheureusement, dans nos cœurs, ça n'a pas pénétré. Hein. Et pourtant, réaliser déjà qu'en acceptant le Seigneur, qui on a reçu dans notre cœur, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est déjà, tout est dit, tout est là. Alors, dans nos agissements, on est souvent déiste ou panthéiste. Alors, c'est des mots un peu savants, mais il faut bien en rajouter un peu, donc j'en rajoute. Alors, le déisme, très sérieusement, le déisme, c'est quoi ? Hein ? C'est ce que je veux vous expliquer par cela, c'est que c'est le Dieu, ce qu'on appelle du XVIIIe siècle. C'est un Dieu suprême qui a créé le monde. Il a créé le monde. C'était un peu la croyance au XVIIIe. Mais après l'avoir créé, il est rentré dans un repos immuable. L'humanité se développe ses propres capacités. Elle doit se débrouiller. Mais Dieu n'intervient pas dans le cours des choses. C'est ça le déisme. Alors le plus illustre représentant du déisme, c'est... il y en a deux. Rousseau. C'est Jean-Jacques Rousseau. Écoutez ce qu'il a écrit. J'adore l'être suprême, mais je ne le prie pas. Que lui demanderais-je ? Qu'il changeât pour moi le cours des choses ? Qu'il fît des miracles en ma faveur ? Mais ce vœu téméraire mériterait d'être puni plutôt qu'exaucé. C'est fou quand même. Faut y aller, quoi. Hein ? Alors, des fois, parfois, on peut être des déistes, on peut être comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, Molière. Mais c'est ça en fait, on est des déistes mais on ne s'en rend pas compte en fait. Par exemple, quand des situations qu'on traverse dans nos vies, on est assez grand, assez capable, ou on ne se trouve pas assez juste, assez pur, vous voyez, on est dans les deux inverses, pour appeler notre Seigneur, pour lui confier nos questions, nos doutes. Alors bien sûr, on ne va pas aussi loin que Jean-Jacques Rousseau, que les déistes, mais on préfère quand même ne rien demander au Seigneur. Comme si le Seigneur, en fin de compte, il était inaccessible. Hein. Pourtant, le Seigneur est là. Toute la parole de Dieu le dit. Patient à nous écouter. À l'opposé, on a le panthéisme. Là, c'est lui ne relègue pas Dieu dans un lointain inaccessible. C'est pire. Il le fait descendre. Au contraire, tellement bien qu'il enferme Dieu et qu'il le confond avec le monde. Hein ? Dieu est la somme de toutes les choses créées, Dieu est tout et tout est Dieu. C'est cela le panthéisme. Alors la création, le créateur, le fini, l'infini, l'esprit, la matière, le temps, c'est pareil. Une plante, une pierre, un homme ne sont que des formes variées de Dieu. Les différents modes d'existence... Quoi qu'on touche dans la nature, vous touchez Dieu. Cette vie universelle, c'est Dieu. Alors quand je vous dis que parfois, comme chrétien, on peut être déiste ou panthéiste, j'exagère évidemment, c'est pour marquer le trait, mais dans nos vies, qui ici, dans cette salle, ne s'est pas senti seul, abandonné par ce Dieu lointain, comme un déiste, ou quand on pense tellement que Dieu est partout dans sa belle création, où on ne distingue plus le créateur de la créature et on fait des mélanges, on devient panthéiste. La vérité est la suivante. Dieu est ici, où que nous soyons, Dieu est là. Il n'y a pas d'endroit et il ne peut y en avoir où Dieu n'est pas. C'est vraiment ça qu'on doit retenir. Pensez à Adam. Vous vous rappelez, quand il a péché, qu'est-ce qu'il fait ? Il se cache. Il se cache de la présence de Dieu. On ne fait pas pareil ? Quand on foire un peu dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de se cacher de Dieu, c'est une blague. Mais on le fait. On le fait tous, ce qui prouve qu'on vraiment on descend d'Adam. Alors quand on y réfléchit, si Dieu est présent à tout point de l'espace, si il peut aller et nous pouvons aller où il n'est pas, pourquoi cette présence n'est pas célébrée dans le monde entier en fin de compte? Pourquoi? Dieu est là, pourquoi personne ne le voit? Et moi je pense qu'en Jacob, en Genèse 28:16, il nous donne la réponse. Une réponse en tout cas. Donc si vous connaissez l'histoire de Jacob tous. Gauthier, tu peux venir nous la dire? Bon, je vais faire un schéma vite fait. Donc, Jacob, il a pris le droit d'aînesse. Sa maman, il a un peu triché, on va dire. Et sa mère lui dit, vaut mieux que tu partes parce que ton frère, il va te tuer. Donc, il s'en va, mais son père le bénit avant, ce qui est important. Son père le bénit et lui dit, va trouver une femme dans le pays d'où ta mère vient. Donc, il y va. Mais si on peut dire il part, mais on va dire il est paumé, quoi. C'est typique de la personne qui ne sait pas où elle va, en fin de compte. C'est quand même pas rien. Hein. Donc, il ne sait pas où il va. Et puis là, arrive la nuit, il va s'organiser. Hein, il organise sa nuit. Alors ça me fait toujours rire. Il est dit, il prend une pierre, il la met sous sa tête. Enfin, le camping à l'époque. Hein. Une pierre. Bon, c'était des hommes hein, à l'époque. Nous, on fait un peu rire quand même. Donc, bref, il met une pierre et il dort. Et là, il a la vision. Il a une vision, vous savez, où il voit cette échelle qui monte au ciel, qui descend. Le Seigneur lui parle. Et à la suite de cela, il déclare une phrase qui est incroyable. Il va dire, « Certainement, l'Éternel est là, mais moi, je ne le savais pas. » Certainement, l'Éternel est là. Jacob n'a jamais été, même pas une seconde dans sa vie, en dehors de l'omniprésence de Dieu, mais il ne le savait pas. Hein ? Tel est son problème, tel est le nôtre. Bien souvent, Dieu est présent, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. La présence et la manifestation de sa présence, ce n'est pas la même chose. Il peut avoir l'une sans qu'il y ait l'autre. Hein ? Dieu est là quand on n'en est pas conscient, parce qu'il est toujours là, de sa présence, mais il ne se manifeste que quand nous en sommes conscients. La révélation de sa présence est cela qui crée la relation. C'est la seule, c'est cette révélation, cette conversion. Je me convertis, ça me révèle que Dieu est présent et je rentre en relation. Avant cela, il n'y a pas de relation. On a été conçu pour goûter la présence de Dieu, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Alors ce matin, moi je voudrais vous dire qu'on a besoin chacun de se poser, d'avoir du temps, des temps plus proches avec le Seigneur, d'apprendre seul avec lui, en tête à tête, d'apprendre à goûter, à aimer, à apprécier sa présence. Le monde est fou, hein, on est d'accord. On en fait partie, on est bien au courant. Hein. On vit pour la majorité, peut-être pas les retraités et encore. Si on prend Gérard, c'est pas un bon exemple. On vit comme des dingues, hein, on est toujours à fond. Mais cette réalité de notre quotidien, elle va générer un conflit entre deux mondes. D'un côté, comme chrétien, on voudrait avoir du temps pour le Seigneur. Et de l'autre côté, on a des agendas, un travail, des pressions. En gros, il y a le monde de l'homme interne, en recherche de Dieu, et l'homme externe, où on vit dans ce monde, dans notre culture, c'est le visible, c'est tout ce qui est visible. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire, ben, arrêtez tout, les gars, hein. On arrête, là, à la fin, là, on mange ensemble, et puis on reste tous là. Bon, les journaux parleraient de nous, hein. c'est pour ceux qui ont envie, quoi, mais bon. Mais bon, c'est peut-être pas l'idée du siècle, surtout que, simplement, je vais vous rappeler qu'on a été créé avec un besoin de solitude. Ce n'est pas juste un petit trip. On a été créé avec un besoin de solitude. On a été créé avec un besoin de se poser. Hein ? Regardez par exemple dans l'Ancien Testament, quand celui qui veut bâtir une tour, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assied, il calcule, il évalue, etc., etc. Nous, on construit la tour, ah, on n'a pas d'argent, elle se casse la gueule, et voilà. C'est un peu comme ça. Donc on a besoin de prendre du temps. Avant des étapes déterminantes dans la vie de quelques personnes dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Ces personnes se sont isolées avec Dieu. On le voit avec Abraham, Moïse, Josué, mais surtout le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, quand il est au jardin à Gethsémané, quand il va prier, qu'il prend son temps, que les disciples s'endorment, qu'il revient, il prend du temps. Il prend du temps. Plein de fois, on le voit, les disciples le cherchent, il est en prière quelque part, il s'est isolé. Si lui, il le faisait, vous voyez ce que je veux dire, hein ? Comprenez la suite. On devrait quand même le faire, non ? Voilà. Donc notre vie est remplie de pression, de distraction, je vous l'ai déjà dit, et de moments vécus à toute vitesse. Puis il y a un moine qui s'appelait Thomas Merton, il a écrit, c'est la réflexion et la mise à part qui chasse les envahisseurs de votre vie. Ces envahisseurs, c'est-à-dire ce temps gaspillé, ce temps qu'on n'a pas isolé. Réflexion et mise à part pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Voilà, je vous encourage. Hein. Alors par le fait de se mettre à l'écart, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il va avoir de la place dans votre âme pour venir à la rencontre du Seigneur. Et qu'est-ce que vous allez lui demander ? Vous n'allez pas lui demander de gagner au loto, vous allez pas. Non, quand vous allez vous poser, vous allez demander qu'il fasse en vous les œuvres qu'il désire. C'est clair, parce que vous avez mis du temps. C'est aussi simple que cela. Hein ? Malheureusement, on remplit notre âme de petits dieux. Hein ? Et on rate cette richesse de cette communion avec Dieu, pour laquelle nous avons été créés, n'oubliez jamais ça, on a été créés. Hein ? Tout dans notre culture, dans le monde, encore plus le monde occidental, semble nous empêcher d'expérimenter cette solitude. Hein. Ça, c'est très clair. Sans arrêt. On n'est jamais seul, en fin de compte. On n'est jamais seul, ou rarement. Donc ça va consumer notre temps, notre attention, toute cette activité, ce débordement de vie, en fin de compte. Mais ça ne va pas satisfaire notre âme. Et c'est pour ça, des fois, comme chrétien, on est un peu... On n'est pas en forme, quoi. Parce qu'on est fatigué, hein, on est fatigué. Alors, l'empressement, c'est un ennemi tortueux de notre âme. Hein. Dans le désir de vivre le plus de choses possible, d'accomplir de plus en plus de choses, eh ben on se prive, tout simplement. On se prive de riches moments qu'on pourrait vivre avec le Seigneur. Suivre Jésus, ce n'est pas un sprint. C'est plutôt une course, c'est un marathon. Ça va prendre du temps, ou même, on va dire, c'est une marche. Hein, vous savez, les marches, là, les gars, là, quand ils font ça, c'est ça, marcher. On marche avec Dieu. Hein. Le but de la solitude, c'est pas de me déconnecter du monde. Hein. Pas du tout, c'est pas du tout dans ce sens-là. Mais c'est changer les fréquences, changer la manière d'être afin que je puisse entendre le Seigneur. C'est vraiment ça. Hein. Il y a un théologien, il s'appelle Richard Foster, il a écrit ceci. Le temps à part ne nous donne pas, et ça c'est, écoutez bien, le temps à part ne nous donne pas le pouvoir de gagner la foire d'empoigne. Ça veut dire vraiment, c'est un vrai combat. Ça ne donnera jamais ce pouvoir. Mais ça va nous permettre de l'ignorer complètement pour un temps. Voilà. Peut-être qu'on ne gagnera pas contre tout ce temps gaspillé. Peut-être qu'on ne gagnera pas, mais ce temps à part va nous sauver. On va gagner pour un petit temps. Voilà. Je trouve ça important. Alors comment on doit faire ? Ben, avant de vous le dire, je vais boire. Comment on va faire ? Alors, premièrement, je ne vais pas vous apprendre quelque chose, parce que ça s'appelle la vie, ça va prendre du temps, ça va demander des efforts. Voilà. Jusque-là, vous n'êtes pas surpris. Alors, je vous propose une idée, rien d'extraordinaire, vous pouvez mettre la vôtre, hein. Moi, c'est la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Et c'est une idée que j'ai expérimentée. Et je trouve que le psaume 143 va nous donner un peu un schéma du verset 5 à 10. Alors si on peut l'avoir, ce serait bien. Ce serait bien, mais en attendant, je vais le lire. Ah oui, on a perdu quelqu'un. Bon, mais c'est pas grave, je vais le lire. 143 pour tous ceux qui ont leur Bible, verset 5 à 10. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'est magnifique. Donc je vais le reprendre pour essayer de vous expliquer ma technique, façon de parler bien sûr. Donc j'ai fait commencer au verset 5, ce passage. Qu'est-ce qu'il nous dit ce passage ? Ça nous parle du passé. Je me souviens des jours d'autrefois. Je me souviens des jours d'autrefois. On se pose avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait en premier ? On se souvient. On se souvient surtout quand on est désespéré. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui n'a pas vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Je me souviens d'autrefois. Autrefois, ça peut être hier, hein. c'est pas au début du temps. Hein. D'accord ? C'est une invitation à regarder dans le passé. C'est une invitation à regarder dans notre propre vie. C'est une invitation à voir comme dans un rétroviseur, qu'est-ce qu'on a vécu ? Ah oui, là. Là, c'est vrai, il était là, le Seigneur. Je m'en souviens. Même, il me semble que j'avais entendu parler, me parler. Je me suis posé, ça n'a pas pris des heures. Voilà. Premièrement, je me souviens des jours d'autrefois. Je m'en souviens. Alors, bien entendu, ce temps à part, toujours le chercher aussi dans la parole de Dieu. Hein ? Parce qu'on va découvrir la personne et le caractère de Dieu dans ce sens-là. Les pages dans la parole de Dieu vont me révéler qui est Dieu. Hein ? Tu me révèles et je veux te connaître. Ensuite, on peut lire dans ce psaume « Je médite sur toutes tes œuvres ». Pareil, on est posé, on se souvient, maintenant on médite. Hein, c'est pas la, comment ça s'appelle ? Méditation transcendantale. Rien à voir avec ça. Hein. « Je médite sur toutes tes œuvres ». La méditation, la définition de la méditation, c'est de donner de l'attention avec de l'intention. Je décide et je médite sur ses œuvres. Vous pouvez admirer sa création, vous pouvez méditer sur ce que vous voulez, mais mettez-y de l'intention. Hein. C'est comme quand vous lisez la parole de Dieu. Vous devez la lire un peu méthodiquement. C'est une bonne manière de faire. Chacun va trouver la manière dont il va faire. Hein. Mais je vous encourage là aussi, commencez par un livre, tel ou tel livre, peu de versets. Moi, je conseille toujours peu de versets, voilà, personnellement, parce que je trouve qu'on se noie dans les trucs, on n'est plus. Vous avez remarqué, dès qu'on commence à lire la parole de Dieu, dès qu'on commence à lire trois versets, ah oui, mais j'ai fait le plein d'essence, ah oui, je dois aller chercher ça. Non, mais c'est dément. C'est la preuve. Pourquoi aller chercher des preuves très compliquées ? Vous avez vraiment la preuve ? Ça, c'est un vrai combat spirituel. C'est très concret. Donc, ne lâchez pas l'affaire, ne nous faisons pas avoir. Hein. Je médite sur toutes tes œuvres. Ensuite, le psalmiste, il nous dit de regarder au présent, en fin de compte. Après le passé, du passé, on passe à aujourd'hui, à maintenant. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? J'étends mes mains vers toi. Étendre ses mains, vous savez ce que c'est ? Ça symbolise une ouverture de cœur. Ça symbolise une âme qui cherche le Seigneur. Vous voyez, quand vous faites ça, c'est pas rien. Vous ouvrez votre... Parce que déjà, c'est un peu la honte. Hein, donc les autres vous regardent, imaginez. Vous faites ça. Bon, y en a, ils vont trouver ça un peu bizarre. Mais vous ouvrez votre âme, vous. C'est vous face à Dieu. C'est pas grave, les autres. Hein, c'est pas grave. Donc c'est une intention, là aussi. Hein. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez développer une faim pour Dieu. C'est pas facile de dire au Seigneur que vous voulez avoir faim de lui. Hein ? Mais il va répondre à cette prière. Seigneur, je prends 5 minutes, j'ai faim de toi. Croyez quoi ? Que Dieu va rien faire ? Dieu va vous répondre. Dieu est avec vous. c'est une réalité, c'est un fait. Hein. Ce n'est pas une conjecture, on ne sait pas, ah peut-être. Non, Dieu est présent. Hein. Vous ne devez pas vous inquiéter de sa présence, mais au contraire, vous devez rester serein et réaliser qu'il est là. C'est merveilleux, le Seigneur est là. Maintenant, cette présence, elle va se produire toujours sur une base régulière. Hein. Vous ne pouvez pas vous reposer sur la portion du mois dernier ou sur celle du mois suivant. Un autre mot fondamental dans la vie chrétienne, c'est chaque jour. Chaque jour. Nous, on dit toujours dans 3 mois. Vous vous rappelez Jésus, la parabole, le gars, il fait construire ses greniers. Ah, je me reposerai quand je serai. Puis, ben, il va mourir. Hein. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. C'est ça, vivre devant le Seigneur. Chaque jour, c'est la seule règle de la vie chrétienne. Il n'y a point d'autre. Parce que ça nous fait réaliser que tout est entre ses mains. Tout. On ne peut pas. Rien n'empêche d'avoir des projets, hein, heureusement. Hein, ce n'est pas mon propos. Hein. Et puis ensuite, versets 8 à 10, là, il nous invite à regarder vers un futur proche. Qu'est-ce qu'il dit ? Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'imaginer le son de la bonté, mais il le dit. On doit le recevoir. Il y a des matins, peut-être qu'un oiseau, c'est le son de sa bonté, j'en sais rien. Mais il nous le fait entendre, le son de sa bonté. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Vous imaginez si chaque jour de notre vie, on prenait 3 minutes, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. C'est quoi ? C'est une manière, ces 4 versets, quand vous vous mettez à part, ben c'est une manière de placer votre futur immédiat, entre les mains du Seigneur. Et plus on va faire ça, et plus on est capable d'entendre sa voix. C'est clair, c'est net, c'est précis. On ne va pas simplement attendre la volonté de Dieu pour nous pendant ces temps-là. On va aussi obtenir, écoutez bien, le courage de vivre cette volonté. Parce que discerner la volonté de Dieu, ce n'est pas un substitut au fait de la vivre. Parce que la volonté de Dieu, elle est toujours action. Dieu te demande ça dans ta vie, ben, il veut que tu le fasses. Hein. Donc des fois, qu'est-ce qu'on fait ? On se cache. Parce que la volonté de Dieu, on n'a peut-être pas envie de la savoir, de la connaître, parce qu'elle peut être dérangeante pour nous. Hein. Quand Dieu nous dit, par exemple, ma volonté, là, tu es fâché avec Gauthier, toujours Gauthier, le pauvre Gauthier, mais je suis très fâché avec lui. Et le Seigneur me dit, ben, va lui demander pardon. La volonté de Dieu, c'est pas marrant des fois. Mais si vous l'accueillez dans votre cœur, elle vous libère. Elle vous renouvelle. Donc, il n'y aura pas de problème. Hein. Donc, et enfin, il continue, et ça j'adore ça, et que ton bon esprit, c'est génial, ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Sur la voie droite. Connaître intimement le Seigneur, ça va nous placer sur la voie droite. La vie, elle peut nous mener sur des montagnes russes. Hein. Ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Mais plus on est en profonde et intime relation avec le Seigneur et connaissance de sa personne, que vous allez récolter, hein, c'est cette expérience dans ces moments que vous passerez avec lui, je l'espère, vous allez récolter cela, et bien ça va vous placer sur des voies droites. C'est bête à dire, mais comprenez bien. Si vous passez du temps avec le Seigneur, même pas longtemps, c'est même pas ça le problème, ben, ça va vous, votre pensée va être dominée par sa présence. Et quand, imaginez, Dieu est là. On ne fait pas n'importe quoi quand Dieu est là. Mais si on n'en a pas conscience, on gueule, on fait ce qu'on veut. Mais là, quelqu'un nous coupe la route. On va pour... Mais Dieu est là. Mais on en a conscience. Enfin, on change. Hein. On change de comportement en 5 minutes. Hein. On roule à 120, c'est limité à 80. Mais Dieu est là. Il n'y a pas de loi, là. Dieu est là. C'est la honte. Je me comporte d'une manière indigne. Non. Dieu est là. Ça change notre vie. Je vous le dis, ça change notre vie. Enfin, je me le dis, hein, d'ailleurs. Pardon. Hein. Voilà. Alors, s'isoler, je vais bientôt finir. C'est pas nécessairement partir en pèlerinage. Hein. Si vous pouvez, pourquoi pas, à la limite. On peut s'isoler partout. Partout, on peut s'isoler. La solitude, c'est plus une position de cœur, en fin de compte, qu'une position physique. Hein. On a besoin de quelques minutes seul. Ça peut être dans la voiture, dans la maison, dans votre jardin, où vous voulez. C'est la démarche de le vouloir qui va déjà nous bénir. Hein. Ce n'est pas un programme. C'est entre chacun et le Seigneur. Ce n'est pas un programme. Quand on se retire, je reviens là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? On se retire temporairement des conversations, du bruit, des distractions, des échéances, du bombardement continuel de stimulation. Hein, je veux dire. Moi, le matin, par exemple, quand je pars en voiture au travail, je mets France Inter. Bon, j'aime bien tout ça. Mais là, depuis quelque temps, au bout d'un quart d'heure, maintenant, je l'arrête, France Inter, et je prends, je ne vous dis pas que je prends 3 heures, je vous mentirai, mais j'ai envie d'avoir un temps là, voilà, où je prie. Et ça me fait du bien. Et ça m'isole, je m'isole. Parce que j'ai vraiment réalisé cela, c'est que le Seigneur nous a créés pour qu'on le connaisse intimement. Intimement. Et c'est génial de le connaître intimement. Alors, regardez votre propre planning, hein. Trouver un moment à passer avec Dieu dans cette solitude chaque jour. Mais j'ai écrit ceci, mais je vous encourage. Commencez doucement. Soyez gentils avec vous-même. Vous ne fixez pas des trucs que vous ne tiendrez jamais. Ça n'a aucun intérêt. Soyez gentils. Soyez gentils avec vous-même. Le Seigneur, vous ne le décevrez pas. Hein. Jamais vous le décevrez. Donc, réalisez que la régularité, c'est une chose qui est difficile. Ce n'est pas facile. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, votre esprit va divaguer et hop, il faudra le ramener. Donc ça ne va pas s'acquérir facilement, mais ensuite, reprenez-vous. Voilà. Et puis revenez. Moi, la dernière fois, donc je suis un peu bête et discipliné, mais je dis... Ah oui, voilà. Donc j'étais au volant et puis j'étends mes mains vers toi et donc j'étends mes mains vers lui. Et puis il y avait un gars, il croyait que je lui disais bonjour, il m'a fait... C'est génial. En plus, vous voyez, vous faites du bien, vous bénissez les gens, vous ne faites rien. Et donc, après, j'ai enchaîné, j'ai fait « Salut !» Je ne veux pas avoir l'air d'un fou, quoi. Mais, voilà, c'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça, mais c'est vraiment sérieux. Donc, regardez votre planning, trouvez un moment à passer avec Dieu. Hein, chaque jour. Voilà. Donc, pour finir... Frères et sœurs, le Seigneur utilisera ce temps, et c'est ça le plus important, parce qu'au final, c'est ça le plus important, pour vous permettre voilà, de vivre la plus grande aventure de notre vie, le voyage, pas du pèlerin, le voyage de la foi. C'est le voyage de la foi, ça c'est la plus belle aventure qu'on est appelé à vivre. Hein. Alors, ce que je vous propose... Pour finir, j'ai fini, amen, j'ai fini. Je vous propose de vous lever, si vous le voulez, ceux qui veulent, hein. On ne va pas rentrer dans la méthode. Et simplement, je vais lire à haute voix, c'est les versets principaux que j'ai repris, et puis on arrêtera là, et puis eh ben, chacun le vit comme il le veut. Hein. Donc, je vous les rappelle. Je me souviens des jours d'autrefois. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Ouais, je médite. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, Seigneur, parce que je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, Seigneur, parce que j'élève à toi mon âme. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Soyez tous bénis en ce dimanche.